انترفيو. مصريين في برنامجكم اكسبريسو حتى للتسعة متاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو اللي يغادر تونس قريب ان فيت، وفي الموندا بتاعه بروبابلمون من اخر الحوارات نتاعو كان مش اخر حوار. بونجور، ميرسي داكسبتي نوتر انفيتاسيون سو ماتان. كوم جو ديزي فو كيتي بيانتو اي سي بيتاتر او بروبابلمون لون دو فو ديرنيير انترفيو سي سني لا ديرنيير بيتاتر.
En tout cas, malheureusement pour la finition du terme de mandat, mais en tout cas, Mabrouk est enchanté d'être là, Ncharfou, et Sparel ouvre à vos écouteurs. C'est toujours un plaisir d'être ici avec Express FM, qui aussi partagé mon parcours depuis les derniers 4 ans. Donc j'ai un bon souvenir à maintes interviews qu'on a pu faire ensemble sur beaucoup de thèmes très, très portants. Merci.
Et justement, on va essayer, c'est pas chose facile, de revenir peut-être sur les grands moments de ces 4 années. Peut-être parler projet déjà. Sur ces 4 années, quels sont peut-être selon vous les projets phares que vous avez menés, sur lesquels vous avez travaillé?
Très volontiers. Et peut-être j'enchaîne même avec mon prédécesseur ici sur l'interview. En fait,
ah oui, même Dabesh de l'HK.
Exactement, Dabesh qui a aussi parlé des avancées, pas seulement sur tout ce qui est l'économie verte, mais plus généralement, le dernier grand événement qu'on a pu faire ensemble, qui a vraiment marqué un pilier fort de notre coopération. À travers les années, renforcé certainement pendant mon mandat. Et ça, c'était autour de la conférence d'investissement qu'on a pu faire ensemble avec la FIPA, avec plus de 1000 participants, avec une bonne centaine d'entreprises étrangères qui se sont engagées, une multiple arrêt de thèmes qu'on a pu faire, et aussi une bonne image, je peux dire, de la Tunisie en se remettant en position vis-à-vis l'investissement, donc un appel à l'extérieur, que la Tunisie reste ouverte pour des engagements sincères, pour des engagements fermes. Dans les marges, on a pu quand même signer pas mal d'accords. On a remis en relief tout ce qu'on est en train de faire actuellement autour de l'énergie verte ElMed. Monsieur Dabesh en a parlé. On a pu boucler un grand programme de soutien sur les petites et moyennes entreprises, quand même encore un montant de 250 millions d'euros d'appui direct à ce secteur. Et aussi, on a pu signer un mémorandum d'entente sur le futur développement de tout ce qui est énergétique. Dans les marges aussi, la Banque européenne d'investissement, qui nous soutient dans beaucoup de ces choses, a aussi signé un contrat pour une route pour le désenclavement de Kasserine. Donc ça c'est récent, mais je pense que c'est un bon exemple de où est-ce que nous en sommes sur un des piliers forts du partenariat, c'est-à-dire l'économie. Si je viens en arrière, toujours avec Express FM, je me souviens de l'interview qu'on a pu faire il n'y a pas trop longtemps, en marquant quand même 20 ans de coopération dans la recherche et le scientifique. Vous vous souvenez,
on a tout à fait le bilan. À la Cité de la Culture.
Voilà, et jusqu'à quel point aussi la Tunisie reste toujours en première ligne de beaucoup de programmes de recherche. Et là aussi, si je regarde en relief, les dernières années, on a pu faire quand même des avancées et d'accrocher cela davantage.
La Tunisie reste juste une parenthèse ici, la Tunisie me semble reste le premier partenaire de l'Union Européenne, enfin en matière de d'échanges économiques, etc. Non, je ne sais pas, je voulais vérifier cette information.
Tout à fait, de loin. En fait, les grands chiffres, c'est toujours 80% de votre investissement externe et de provenance de l'Union Européenne. Si je regarde les chiffres en termes de présence de compagnies externes, donc on a plus que 3000 compagnies européennes. Et malgré une conjoncture difficile politiquement, économiquement dans les dernières années, c'est un chiffre qui s'est augmenté de 10%. Un très bon chiffre tout avec, c'est aussi tous les emplois directs qui viennent avec cela. Également, ces chiffres se sont même agrandis de 15% pendant la période des 4 ans. Mmh. J'en profite quand même qu'il y a encore du boulot à faire, donc on continue de rester ouvert et de passer le message qu'en termes de régime régimes commerciaux, régimes investissement, l'Union européenne reste ouverte pour s'engager, réfléchir avec la Tunisie comment encore améliorer, moderniser le cadre actuel en cours, voire d'améliorer le système soit autour des investissements. Il y a toujours des dossiers ouverts dans l'agriculture. On n'a pas encore bien réglé l'échange des services. Et là aussi, dans les marges de la conférence d'investissement, mes collègues qui sont venus du siège ont pu avoir des bonnes discussions et des très bonnes avancées avec les ministères principaux concernés, donc le ministère du Commerce et le ministère de la Planification. Là, j'étais plus ambitieux quand je suis arrivé, j'avoue. J'avais pensé que pendant mon mandat de 4 ans, j'aurais pu avancer et déjà d'être un peu plus loin de ce qui c'est aussi le type de modernisation de nos cadres d'échange. Mais quand même, je laisse encore un dernier chiffre peut-être aux écouteurs, que quand même, malgré que c'est un ancien cadre, c'est quand même un cadre qui fonctionne très bien pour la Tunisie. Si je regarde uniquement un chiffre, que la Tunisie a un excédent commercial avec l'Union européenne, déjà depuis les dernières années, un excédent assez important, plus que 2 milliards d'euros d'excédent en termes d'échange général. Et c'est, je pense qu'on est le seul grand partenaire pour pouvoir dire qu'on a un régime qui fonctionne plus ou moins en faveur de l'économie tunisienne plutôt que l'inverse.
Il y a pas mal d'autres projets financés. Il y a le pont de Bizerte, on en a parlé récemment. Il y a vraiment des grands projets d'infrastructure. Vous avez lors du TIF, le Tunisia Investment Forum, vous avez également annoncé, vous en parliez tout à l'heure, par exemple Kasserine, etc. Donc toujours de l'infrastructure assez importante d'ailleurs. Comment vous voyez l'avenir de la coopération économique Union européenne-Tunisie. Je ne parle pas des relations maintenant d'une manière générale où on y viendra d'ailleurs, mais la coopération économique entre l'Union européenne et la Tunisie. Monsieur Cornaro, je rappelle, d'accord, Mostamina Saad Sefir, le Tihad Louboutoun, c'est les Pchirad Rankarib, et d'amon Konechir Hwali.
Pour moi, il y a deux grands volets sur lesquels on doit rester focalisé. Un, c'est la création de l'emploi. Et de capter sur tous les talents jeunes tunisiens et tunisiennes autour de ce qu'on peut faire de tissu sur le... Bon, on est ici au Startup Village, donc les start-upers, les start-upeuses, mais plus généralement, capter l'innovation et le développement. Là-dessus, il y a des très bons programmes, des projets. Innovi, ça c'est un terme qui est entre-temps connu. On a une centaine de jeunes compagnies qu'on accompagne pour améliorer leur capacité d'exportation autour des brevets, autour de tout ce qui ont en bas. Et aussi, on a un système qui essaie d'améliorer votre système bancaire, qui malheureusement fait un peu défaut pour ce type de clientèle. Donc accès au financement et des produits de ce type. Et sur ça, c'est une filière où j'espère qu'on restera bien engagé avec toute une série de partenaires tunisiens. Donc ça, c'est pour tous ceux qui...
De quelle manière vous resterez engagé sur ça?
Bon, financièrement, il y a des financements, il y a des instruments de financement soit direct, il y a des accompagnements d'assistance technique. On a des partenaires, par exemple, avec la Banque européenne de reconstruction et développement, un programme où on suit à travers les autres opérateurs, de près des compagnies avec des initiatives. Donc, création d'emplois, donc des nouvelles entrants. Et ça va en pair, si je regarde la photo plus large de nos engagements avec la Tunisie, c'est aussi pour quand même continuer à encourager un esprit d'ouverture à la compétitivité. Et donc, pour être sûr qu'il y a des nouvelles idées qui peuvent entrer, qui peuvent mourir. Et deuxième grande porte d'entrée, et ça c'est peut-être enchaîné sur ce que vous avez mentionné, Banque européenne d'investissement et autres, on a cet outil qu'on utilise de plus en plus, où il y a des dons de l'Union européenne, donc de la Commission européenne, qui va en pair avec une offre d'un prêt concessionnaire, qui peut pas seulement baisser le prix de l'investissement, mais plus important, aussi de couvrir certains risques, soit politiques ou financiers, qui autrement freinaient la décision d'un investisseur d'y aller en avant. Et là, on va continuer pour ce type de pistes, pas seulement dans la voie énergétique, mais aussi infrastructure. Il y a beaucoup à faire dans le digital et autres aspects de la connectivité. Donc des nouveaux instruments, des nouveaux montages financiers avec une utilisation plus intelligente, je pourrais dire plus adaptée, de combinaison des moyens de dons avec des préconcessionnaires. Et deuxièmement, mais important, rester prêt au terrain des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses tunisiens.
Par rapport, pour revenir un petit peu maintenant donc à votre passage donc en Tunisie, on fait des back and forth, hein, j'avance, on revient, enfin voilà, c'est là on parlait un petit peu d'avenir par rapport aux relations entre l'Union européenne et la Tunisie sur un point de vue économique, hein, pur et dur. Alors les relations politiques, comment vous les évaluez au jour d'aujourd'hui et comment voyez l'avenir? La relation politique, Union européenne-Tunisie.
Voilà, bon clairement, aussi pendant les 4 ans, je pense au niveau politique, ça s'est stabilisé malgré des changements des deux côtés et des années difficiles. Quand même, si je regarde mes 4 années, c'est quand même 3 périodes peut-être distinctes. Je suis arrivé en pleine phase Covid, qui avait un peu freiné et changé le mode de faire. Puis s'enchaîner aussi... l'expérience tunisienne en termes d'une refonte constitutionnelle politique nouvelle, donc une nouvelle identité politique, si j'ose dire, qui elle-même aussi avait son articulation avec l'Union européenne. Je pense qu'on a réagi avec beaucoup de d'understanding, compréhension, d'intérêt dans un partenariat légal et légal. Donc ça, c'est pas des mots vides qu'on a utilisés, c'est des mots qui sont sincères. Je peux enchaîner sur les mots un partenariat égal et égal, mais je peux aussi dire que c'est pas un partenariat qui m'est égal, donc je me suis énormément engagé pour être sûr qu'on reste accroché à la coopération tunisienne, notamment à tous ceux qui touchent la population dans le fond. Et peut-être la dernière phase, là aussi il faut dire que évidemment la guerre au Gaza et l'interprétation et les réactions internationales n'a pas facilité l'image de l'Union européenne ici dans le tissu tunisien, pour des raisons que je comprends très bien. Là, mon travail était aussi pour faire relief aussi à les efforts plus récents, mais crédibles, de l'Union européenne, notamment de M. Borrell, mais beaucoup d'autres acteurs, de rester engagés avec les pays maghrébins, avec le tissu arabe, pour en sortir avec une solution meilleure. Mais c'est vrai que ça a un peu alourdi l'image et la manière dont on est perçu comme acteur ici dans le pays. Donc j'en profite pour aussi confirmer à vos écouteurs que l'Union européenne, certainement, et comme institution, mais aussi comme acteur, reste très actée là-dessus. Quatrièmement, peut-être plus généralement philosophiquement peut-être parlant, la chose qui m'a aussi interpellé, c'était quand même comment jouer la forte attention que la Tunisie prête à l'indépendance et à la souveraineté dans un partenariat qui pour nous est plutôt interdépendance. Donc il y a un peu c'est assez naturel qu'on est engagé, qu'on reste prêt, qu'on est concerné, qu'on est présent, mais ça c'est pas quelque chose que nous on aperçoit comme une ingérence, au contraire, ça fait uniquement une affirmation d'un partenaire. Et cela passe plutôt à travers une communication qui évite des malentendus. Là aussi j'ai essayé de faire mon mieux, mais c'est vrai, si je regarde les 4 années passées, il y avait quand même des moments où entre...
Ça a moins bien marché.
Ça aurait pu mieux marcher en termes d'éviter un raccourci d'une mauvaise interprétation. Mais généralement, je veux dire qu'on s'est pas très bien et très vite repris au niveau politique, au niveau de l'ambassade, avec les ministères. Et c'était en général une très bonne expérience. Aussi, comment piloter avec un partenaire si important, si engagé et si articulé comme la Tunisie. Donc une très très belle expérience.
Vous avez des regrets ou des choses que vous aurez voulu faire, que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas pu faire, ou alors des choses que vous avez fait mais pas assez bien, ou alors des choses que vous avez fait et que vous regrettez tout simplement qui n'aurait pas dû être fait de la sorte ou pas. Vous pouvez me donner un exemple dans chaque catégorie que je viens de citer au moins.
Voilà, non mais très volontiers, évidemment, avec un travail que j'avais comme ambassadeur Union Européenne qui a tellement d'opportunités, il y a toujours des regrets, des choses qu'on a voulu faire ou plus en faire plus. Une chose que je regrette, que j'aurais dû voyager beaucoup plus que j'ai fait. Même je me suis déplacé beaucoup dans le terrain. Je me suis placé beaucoup, j'adore la région de Kef, de Tataouine, j'adore aussi, les zones autour de Kasserine, Jendouba. J'ai essayé de visiter des programmes, des projets, des très bons programmes et projets qu'on veut faire. C'était vraiment des expériences très très riches, mais évidemment j'aurais pu et j'aurais voulu d'en faire plus. Ça, c'est certainement une des choses. La deuxième chose, et là je reviens un peu sur le thème économique, comme je disais, j'avais l'ambition et même le mandat d'avancer davantage nos accords actuels. Donc, dans le jargon, c'est l'accord d'association. J'ai hérité des malentendus autour de Aleca, mais avec un mandat. Donc Aleca, c'est la proposition d'un accord de libre-échange qui était mal compris, peut-être mal négocié des deux côtés, mais qui restait encore une offre ouverte, mais aussi avec l'intention de rester à l'écoute de la Tunisie, comment le moderniser. Mmh. Et là, pour des raisons multiples, il inclut des complexités peut-être du contexte international, mais aussi national, on n'a pas pu suffisamment avancer, sauf comme je viens de dire qu'autour de la conférence d'investissement, au moins les collègues qui sont venus de la DG Commerce ont eu des très bons entretiens et qui ont pu partager avec des dirigeants tunisiens des idées comment en faire et de quel type d'autres arrangements qu'on a en place, soit avec le Maroc ou avec Angola, avec des autres pays, de s'inspirer là-dessus. Donc ça c'est quelque chose que je laisserai à mon successeur, mais ça c'est vraiment un regret où j'ai vraiment eu l'ambition d'en faire plus. Et pourquoi ? Parce que je suis convaincu, vraiment convaincu, que la sortie de crise ou des problèmes financiers et autres de la Tunisie sont réglés à travers une reprise économique plus dynamique et d'être sûr aussi que l'Union européenne on fait le maximum là-dessus.
Justement, comment se porte l'Union européenne ? Est-ce qu'elle ne passe pas également par une crise économique ou par une situation économique complexe ? L'Union, au vrai sens du terme, le couple franco-allemand, enfin voilà, comment vous voyez l'avenir ? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une sorte d'interdépendance, hein, donc c'est un marché important pour notre pays, donc ça va dans les deux sens. Hein, et donc comment se porte l'Union européenne ? Comment vous voyez l'avenir de cette Union ? Enfin, pas de l'Union en soi, hein, je pense pas que, mais de sa conjoncture économique, de sa situation économique, politique, avec des changements récents très importants lors des dernières élections.
Ouais. Bon, l'Union européenne en soi, comme construction, est faite pour bouger. Donc c'est clair, c'est toujours un projet ouvert, donc c'est logique qu'il y a des changements, comme on parle maintenant, juste suite aux élections européennes, où le vrai impact doit encore être vu, mais dans l'ensemble, c'est quand même des grandes parties de ce qu'on dit de milieu, centre-gauche, centre-droite, qui ont quand même encore porté une bonne majorité pour soutenir un projet qui est pro-européen et plutôt un projet pour en faire plus de l'Europe qu'en faire moins. Mais c'est vrai, à la droite et à gauche, il y a quand même plus de voix qui deviennent de plus en plus critiques. Donc aussi l'enjeu démocratique de l'Union européenne est quelque chose qui est testé. Pour ce qui concerne la Tunisie, je pense qu'il y a une forte probabilité que Mme Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne actuelle, reçoit un nouveau mandat. Elle-même, elle s'est investie personnellement avec des relations, avec deux visites ici pendant mon mandat avec le président. C'est encore connu que ça a amené à un mémorandum d'entente qui restera bien à l'écran, je pense aussi, de la nouvelle direction et les nouvelles dirigeants, mais qui ne sont pas encore en place. Et là, il faut être un peu patient, et ça ne va pas se faire avant novembre 2024 ou plus tôt, vu le processus démocratique de confirmation, d'abord de la présidente elle-même, mais aussi de sa nouvelle équipe. Si je vois aussi des autres changements, il y a peut-être une opportunité de repenser la politique de voisinage aussi des deux côtés. Et cela en vue qu'il y aurait aussi une forte attention donnée à ce qui est l'élargissement vers l'Est et le soutien de l'Ukraine, mais aussi beaucoup d'autres pays du Balkan. Mais pas, et ça je peux, j'en suis sûr, pas au dépit de ce qu'on peut faire et qu'on continuera à faire avec les pays, pour nous dit du Sud, donc de Maghreb, mais il y aurait l'opportunité de repenser, plutôt avoir un affichage plus ferme sur la politique voisinage vers le Maghreb.
Marcus Cornau, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, selon votre expérience, votre connaissance de votre Union européenne et de notre Tunisie, s'il y a une chose qui pourrait dynamiser, donner un grand boost aux relations entre l'Union européenne et la Tunisie, quelle pourrait être cette chose ? C'est comme si indirectement je vous disais qu'est-ce que vous laissez sur votre bureau pour votre successeur. Donc,
Bon, vu que je parle avec vous, certainement pour moi la communication reste clé. Donc j'espère que le tissu médiatique restera fort ici en Tunisie, disponible pour s'engager avec l'Union européenne, avec mon successeur et les autres sur la bonne voie qu'on a fait. Et là j'espère vraiment que le tissu médiatique reste ouvert, pour pouvoir communiquer, pour rester disponible à beaucoup d'audience. S'il y a une chose pour redynamiser, je pense d'en faire plus, et peut-être ça c'est le troisième regret que j'aurais pu citer auparavant, c'est autour de la jeunesse et à travers notre coopération, de démontrer une bonne perspective jeunesse à travers l'emploi, mais aussi peut-être l'emploi pour circulaire vers l'Union européenne, mieux structuré, avec des meilleures possibilités de retour et des allées et venir. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faudra redynamiser le partenariat dit jeunesse et aller au-delà des bons programmes déjà en cours, mais qui ciblent uniquement des compagnies en soi. Donc ça c'est bien, je pense.
Pourtant avec Youth for Employment, etc. Enfin, voilà, vous avez beaucoup travaillé sur
ça. Et ça, ça viendra au père de ce qui est déjà en place, aussi qu'on a pu mettre en place pendant mon mandat, ce qu'on parle le partenariat des talents, mais de revoir le type de formation professionnelle qui est déjà qui existe ici dans le pays, avec soutien pas mal de l'Union européenne. Mais qui n'est pas très bien axé aux besoins du marché soit tunisien ou ni le marché européen. Donc là, je vois une vraie piste et une dynamisation, parce que c'est finalement aussi à travers la vue de la jeunesse que le partenariat aurait la vision du futur pour les 10 ans, voire 20 ans à venir. Il y a peut-être un autre thème sur lequel on peut se marquer comme partenariat. Ça, c'est tout ce qui est secteur eau et soutien au changement climatique des deux côtés. Parce que ça nous interpelle en Europe, mais ça aussi m'interpelle beaucoup de comment réagir en termes de partenariat pour rester aux côtés des efforts tunisiens pour adaptation au changement climatique, notamment axé sur l'eau. Là aussi, pendant mon mandat, on a mis ensemble ce qu'on peut parler d'une Team Europe Initiative réponse autour de l'eau, avec notamment un bilan de ce que aussi tous les pays membres bilatéralement puisse faire. Et avec ça, je profite aussi peut-être de dire que c'était une très belle expérience, pas uniquement avec mes collègues amis tunisiens, mais je dois aussi dire qu'en termes de partenariat affichage Union européenne, avec les quand même 17 ambassades de pays membres Union européenne ici présents, c'était aussi une belle expérience. Et le secteur eau, comme l'investissement, est un bon exemple, comment vraiment, comme équipe Europe, on peut en faire plus.
Alors, j'allais terminer en vous demandant s'il y a une chose dont vous êtes fier, mais peut-être c'est cette réunion de Team Europe, mais je ne sais pas, il y a peut-être autre chose. S'il y a une chose dont vous êtes fier sur votre mandat, parce que je vous ai parlé de regrets, de ce qui n'a pas marché,
En termes de travail, effectivement, ce type de Team Europe et d'affichage plus large dans un contexte qui n'est pas évident, vraiment d'avoir tenu un bon affichage famille Union européenne avec du concret pour le pays, donc la valeur ajoutée d'une délégation comme l'Union européenne. Mais sinon, je suis aussi fier des maintes amis que j'ai pu faire en Tunisie. Et ça me rassure. Et voici mes larmes. Et j'espère que je peux compter vous-même parmi ces belles expériences et rencontres personnelles que j'ai pu faire.
On a eu beaucoup d'interviews. Hein,
et là, je suis aussi fier, je pense, de la manière dont c'est des amitiés et des échanges qui resteront valables à l'auteur bien au-delà de mon départ et que je garderai en contact. Et là, j'ai à travers le pays, je dois dire, chaque rencontre avec chaque Tunisien et Tunisienne, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés et intéressantes.
Et sur ça, on termine cette interview. Peut-être je vous laisse 10 secondes ou 30 secondes si vous avez un message en particulier à passer aux Tunisiens qui vous écoutent ce matin, à vos collaborateurs ou voilà, je ne sais pas, je vous laisse un libre espace de...
Bon, évidemment, Mambouk et Mouchmouch, que j'espère pour beaucoup des choses, restez accrochés. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de choses sur la route et gardez l'espoir que l'Union européenne... reste fidèlement à côté tunisien. On y croit à sa population, on y croit à l'importance de ce pays et c'est toujours une expérience accueillante et motivante.
Merci beaucoup Marcus Cornaro d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'est probablement votre dernière interview en Tunisie. Bon vent. Est-ce que vous allez nous divulguer qui est votre successeur? Vous pouvez nous dire qui va vous succéder à la tête de la délégation de l'Union européenne en Tunisie ou c'est encore...
Non, c'est pas un secret. En fait, il y a 2-3 jours que la Tunisie a donné l'agrément du successeur qui s'appelle Giuseppe Peroni et qui débutera, j'en suis sûr, quelques semaines après mon départ. Ouais. Donc à partir de 1er septembre...
Vous lui dites quoi ? À votre successeur, vous lui dites quoi au micro ce matin d'Expresso?
Benvenuto, comme c'est un italien, et j'ai l'envie des 4 ans de belle expérience qu'il a devant lui, avec beaucoup de choses à faire, mais avec un bon partenariat sur lequel il peut s'appuyer, avec beaucoup de piliers qui restent fortes.
Merci beaucoup Marcus Cornaro, bonne continuation et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur les ondes d'Express FM. On a eu beaucoup d'interviews et pas que dans ce studio, donc à la Cité de la Culture ou ailleurs, dans beaucoup d'événements. Et c'était toujours un échange intéressant, constructif et c'est des souvenirs que j'en garde. Merci beaucoup.
Merci à vous, Wassim.
Interview.